Alors, les deux dernières semaines, vu les chapitres 1 et le chapitre 2 d'Esdras, ce matin, nous allons continuer notre étude dans le chapitre 3. Nous allons voir le chapitre 3. Dans le chapitre 3, nous savons que le peuple est revenu de l'exil, après 70 ans d'exil. Ils sont retournés à Jérusalem avec un mandat spécifique de la part de notre Dieu. Le Seigneur leur demande, par l'intermédiaire de Cyrus, d'aller et reconstruire le temple de l'Éternel, la maison de l'Éternel. Alors, le chapitre 3 nous parle de la reconstruction de l'autel et aussi de la reconstruction du temple. Les murs, nous savons que ça va arriver bien après avec Néhémie, mais le chapitre 3 commence avec la reconstruction de l'autel et la reconstruction du temple. Le premier verset du chapitre 3 nous dit comme ça. Le septième mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Alors dans ce premier verset, le thème, les Israélites étaient dans leur ville, alors le peuple s'assembla comme un seul homme, ça nous donne l'impression, ça nous fait comprendre qu'il y avait un rassemblement. Un rassemblement parce que dans le chapitre 2, juste à la fin du chapitre 2, verset 70, on voit aussi que ceux-là qui sont revenus de l'exil, les sacrificateurs et Josué et puis Zorobabel, tout le reste, ils se sont dispersés, disons, ils se sont établis dans leur ville. On comprend comme quoi qu'ils étaient établis dans plusieurs villes et de Juda. Alors maintenant, face à ce projet de reconstruction de l'autel, ils se rassemblent, ils s'assemblent, et ce rassemblement se fait d'une façon assez spéciale. Et il dit avec, alors le peuple s'assembla comme un seul homme. Ça ne veut pas dire que c'est un seul homme qui va faire l'ouvrage, mais c'est l'idée que un seul homme, avec un seul sentiment, animé d'une même motivation, et aussi avec une même vision. Tout le peuple s'est rassemblé en arrière de cette vision, sous le leadership, bien sûr, le leadership politique de Zorobabel et le leadership religieux de Josué. Tout le peuple s'assembla en arrière de cette vision-là, comme une seule personne, comme un seul homme, pour commencer le projet de reconstruction de l'autel. Alors, dites-vous bien que ce peuple revient d'un exil de 70 ans. Et le texte de Néhémie nous dit, quand Néhémie s'est informé de la situation du peuple à Jérusalem, de son peuple, les gens lui ont dit que c'était une ville en désolation, c'était une ville en ruine. Alors, on peut penser aussi que quand l'arrivée de Esdras, Jérusalem est en ruine, parce que Nebuchadnezzar n'a pas épargné cette ville-là, il a rasé vraiment. Et puis, il n'y a pas eu vraiment de grand projet de reconstruction. Alors, Jérusalem est en ruine, tout est à recommencer. Mais où commencer? Par où commencer? Alors, la réponse, c'est de revenir à l'objectif. Et l'objectif, c'est que dans le verset, chapitre 1, verset 5 de Esdras, il est dit, « Alors les chefs de famille de Juda et de Benjamin, ces deux tribus-là, les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour monter au pays, c'est-à-dire aller à Jérusalem, et bâtir la maison de l'Éternel qui est allé à Jérusalem. » La mission, c'est la construction de la maison de l'Éternel. Alors, pour en arriver là, ils ont dû, évidemment, faire référence aux Écritures, le mandat que Dieu leur a donné, le mandat initial de l'Éternel. Et ce n'est pas seulement de faire référence à ce mandat-là, mais il faut l'appliquer. Dieu leur demande de faire une construction, mais il faut y obéir. Et c'est ça, c'est deux points essentiels dans la vie de toute personne, de tout chrétien principalement, dans l'Église aussi. Un retour aux Écritures, c'est bien. Mais si on lit les Écritures, puis on ne le met pas en pratique, et ça ne nous amène nulle part. Et c'est ce que Jésus-Christ va dire dans le Nouveau Testament. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande. Alors l'obéissance est au cœur de toute cette démarche de reconstruction de l'autel. Omaki, c'est un projet de Dieu. Dieu, c'est l'initiateur du projet. Nous avons vu avec Ronald dans les deux dernières semaines comment Dieu a mis en place tout ce qu'il fallait. Il a suscité ce désir dans le cœur d'un roi perse pour laisser partir son peuple. Et en plus, qu'il a donné les moyens, tout ce qu'ils avaient besoin comme matériel pour la construction de la maison de l'Éternel. C'est un projet que Dieu lui-même pilote. Et dans le verset 2 de Esdras 3, et le peuple a compris cela et il voulait bâtir l'autel du Dieu d'Israël. Ce n'est pas l'autel de quelqu'un d'autre, c'est un projet de Dieu, c'est l'autel du Dieu d'Israël afin de lui offrir des holocaustes. Il commence avec la construction de l'autel, pas forcément du temple, le temple va venir par après. Il commence avec la construction de l'autel. Et pourquoi la construction de l'autel ? Pour les holocaustes. Et pourquoi les holocaustes? L'adoration, la confession et tout ça. Nous savons le modèle que Dieu avait donné à Moïse dans l'Exode, qui commence avec l'érection de l'autel où le peuple va apporter les offrandes, les sacrifices pour leurs péchés, etc. Fait que le peuple commence avec la construction de l'autel. Et la France est dans toute vie chrétienne. Dans toute vie chrétienne, la sanctification vient d'abord avant l'adoration. On ne peut pas entrer dans l'adoration de Dieu si on n'est pas sanctifié. C'est ce que Dieu demande. Il a donné cette image-là dans l'Ancien Testament avec Exode. Les sacrificateurs, avant même d'aller offrir des sacrifices, ils doivent se purifier. Il y a tout un processus mis en place, un rituel que Dieu avait mis en place pour que son peuple vienne l'adorer avant que son peuple ne puisse rentrer dans sa présence. Et c'est exactement ce que nous croyons voir ici, l'image de la sanctification d'abord, avec l'érection des autels, puis le peuple va pouvoir adorer. C'est important dans la vie du peuple de Dieu, physique, si on rappelle, Jérusalem, les Israélites, et leur peuple spirituel que nous sommes, en tant qu'héritiers du royaume de Dieu, et le peuple qui s'est greffé à l'olivier franc, comme le peuple, Paul le dit dans le Nouveau Testament. Nous, les chrétiens, ce processus est aussi vrai pour nous. Avant d'entrer dans l'adoration de notre Dieu, la confession est de mise. Il faut qu'on confesse, qu'on se sanctifie avant d'entrer dans la présence de Dieu. Le verset 3. Alors, c'est le début des travaux. Et ils veulent rebâtir l'autel sur ses fondements. C'est intéressant de voir comment le peuple... Ronald a parlé dans les deux dernières semaines comment... Le peuple a été enseigné. L'enseignement était au cœur de toute cette démarche. Les sacrificateurs, puis tous les Lévites, l'ensemble des Lévites qui devraient enseigner la loi, parce que le peuple, par rapport aux traditions et tout le temps qu'ils sont passés loin, peut-être qu'ils ont oublié. Alors, on parlait même du problème de langage. Mais il y a eu cette formation, cet enseignement, ce retour aux Écritures. Et le peuple n'a pas pris ça à la légère. Et ils veulent rebâtir l'autel sur ses fondements. Et c'est intéressant de voir que le texte, dans chapitre 2, verset 68, parle de sur ces fondements-là, oui. Que c'est comme s'il y a ils veulent mettre l'accent sur le thème, sur ses fondements. Et nous voyons aussi dans le chapitre 2, chapitre 3, il est question de ses fondements. Mais qu'en est-il de ces fondements-là? Qu'est-ce qu'on comprend par ces fondements-là? Alors, pour comprendre ce terme, revenir sur ses fondements, dans certaines versions, il rétablir l'autel sur ses assises. Nous allons faire quelques lectures et je demanderai à quelques personnes. Une personne pourrait lire 1 Chronique, chapitre 21, versets 25 et 26. Une deuxième personne va lire 1 Chronique, 22, verset 1. On va commencer avec ces deux textes-là, juste pour pouvoir comprendre mieux l'expression sur ses fondements, sur ses assises, qui est revenu dans le texte du Esdras 3. Quelqu'un, premièrement, avec 1 Chronique 21, 25 à 26.
Et David donna à Ornan 600 sicles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel.
1 Chronique 22, verset 1er seulement.
Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël.
Alors, on voit dans ce texte-là que David, déjà dans le temps David, David avait mis à part ce terrain-là, ce morceau de terrain qu'il avait acheté de Ornan. Le texte de Chronique nous dit qu'il avait acheté, il a lui-même bâti un autel sur ce terrain-là, l'Ornan, et dans l'ère d'Ornan. Et plus tard, avant que David, Salomon ne vienne, David, dans le chapitre 22, il désigne cette place-là pour la construction de la maison de l'Éternel. Il bâtit l'autel, mais nous connaissons l'histoire de David. Dieu n'a pas voulu que ce soit David qui lui bâtisse une maison sans temple, parce que David avait versé trop de sang. Ce sera à son fils, Salomon, qui bâtira la maison de l'Éternel. Et je vous invite à tourner. Quelqu'un pourrait lire pour moi 2 Chroniques 3, verset 1.
Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à son père David, à l'endroit préparé par David pour l'ère de l'Ornan, le Yébousien.
Alors, on voit un lien vraiment là. C'est David qui achète le terrain, il bâtit l'autel, il dédie ce terrain pour la construction du temple, et plus tard, son fils Salomon, lui-même, il va bâtir la maison de l'Éternel sur cette portion de terre-là. Et c'est cette question de terre, et si vous voyez dans le texte d'Exodus, il va dire exactement que, il va parler de ces fondements-là. C'est que le peuple a été cherché vraiment, là, ces fondements-là pour aller, pour bâtir l'autel. C'est vraiment intéressant. Et c'est aussi à cet endroit-là que Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac. Je trouve ça très, très intéressant. Tournez avec moi dans Genèse 22, verset 2, verset 8 et verset 14.
Dieu dit, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau. » Abraham donna à cet endroit le nom d'Adonai Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
En regardant ce texte-là, je ne sais pas si vous suivez, si vous voyez déjà l'image là. Hein? On a un autel qui est bâti déjà en Genèse, au début là, c'est la Genèse. Dieu demande à Abraham d'aller offrir un sacrifice à cette place-là, cette même place-là qu'on a vue dans deux chroniques, première chronique aussi, qui va offrir son fils, Isaac. Et vous connaissez bien l'histoire. Rendu à la place, verset 8, on l'a lu, mais Isaac dit à son papa, « Papa, où est le sacrifice ?» Abraham répond, « Ne t'inquiète pas, l'Éternel y pourvoira. » Et finalement, est-ce que vraiment Abraham a dû offrir son fils? Non. Il n'était pas obligé d'offrir son fils. Dieu a pourvu à quelque chose d'autre, une brebis, quelque chose. Mais dans le verset 24, le nom de la place est resté l'Éternel y pourvoira, il aura pourvu. Et, pardon, on voit le lien vraiment entre dans le dessein de Dieu, comment Dieu avait déjà mis un plan, un plan pour le salut de l'humanité en offrant un sacrifice par des images, premièrement en commençant par Isaac et Jacob. Maintenant, quand David est là, il a suscité souvent ce désir en David pour que David aille acheter ce morceau de terrain pour l'autel. Salomon va bâtir le temple là-dessus, l'autel. Mais plus tard, à Golgotha, nous savons ce qui est arrivé à Golgotha, n'est-ce pas? À Golgotha, c'est l'autel de la nouvelle alliance qui a été dressé pour que toi et puis moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Ce sacrifice-là qui a été remis du temps d'Abraham sur ce mont Morija-là avec Jésus-Christ et plusieurs semblent dire la même chose que à Golgotha. Golgotha se trouve vraiment à cette place-là où a eu lieu le sacrifice d'Isaac et aussi que nous avons vu dans Esdras où l'autel a été érigé, l'autel a été construit. Alors, nous voyons dans ce texte-là, dans tout l'Ancien Testament, le plan de salut de Dieu qu'il a accompli. En son temps, il a mis les pièces de la casse-tête en place. En son temps, à l'époque qu'il a désignée pour que nous puissions avoir ce salut. Et le peuple, nous comprenons que le peuple, l'Écriture, a inspiré, le peuple a compris le plan de Dieu et a voulu rétablir cet autel. Ce n'était pas juste un autel comme ça, mais nous croyons que c'est un autel, d'après le texte que Dieu nous dit, c'est la maison de Dieu. Dieu a voulu que cet autel-là soit bâti et le peuple s'est référé aux Écritures. Vous voyez qu'ils avaient vraiment sondé les Écritures pour voir ces places-là et obéir à la loi de l'Éternel, obéir à Dieu. Et comme j'ai dit, plusieurs personnes pensent que, croient que à Golgotha, c'est à la même place parce qu'ils parlent d'une route. Dernièrement, qu'ils ont trouvé une route qui relie Damas et Jérusalem qui passe par là. Et ils croient que les Romains auraient sûrement pris cette route-là pour arriver à Golgotha parce que leur supplice qui se faisait au Golgotha se faisait sur le site le plus haut pour que ce soit une exposition à toute la ville. Alors, pour donner un exemple à ceux qui contrevenaient à la loi des Romains pour, en termes de punition, comme ça, seraient exposés à la place publique. Alors, tout ça pour dire que les gens qui ont fait des études là-dessus veulent, ils sont unanimes à croire que Golgotha, c'est la même place où Moïse, Abraham avait offert Isaac en sacrifice. Et cette même place-là, nous voyons dans Esdras, que le peuple veut, c'est à cette même place-là que le peuple veut rebâtir l'autel que Dieu leur avait demandé de bâtir. Alors, dans le verset 24, dans verset 4, l'autel est en cours, les gens sont en train de travailler. Et dans le verset 4, il parle de la fête des tabernacles. C'est quoi la fête des tabernacles? C'est une fête qui a été demandée par Dieu lui-même dans l'ensemble de toutes les fêtes que Dieu avait demandé au peuple d'Israël de fêter. Et le verset nous dit comme ça, ils célébrèrent la fête des tabernacles ou des huttes, comme il est écrit, et ils les offrirent jour après jour des holocaustes selon le nombre fixé pour chaque jour. Pour mieux comprendre ce verset-là, ce serait bon qu'on puisse lire Lévitique 23, verset 34, pour mieux saisir cette fête du tabernacle et ce qui est dit ici, là. Et nous voyons à travers cela comment le peuple vraiment est resté fidèle aux Écritures. Malgré le temps qui est écoulé, le peuple est vraiment resté fidèle aux Écritures. Lévitique 23, 34. Septième mois, 15e jour. Alors, vous avez lu au premier verset, là? Esdras, chapitre 3, verset 1er, il a dit quoi? Comment ça dit? Septième jour. Septième mois. Septième mois. Dans tout ce texte-là, j'ai regardé vite, il y a pas mal d'indications sur ce septième mois, des fêtes qui devraient être célébrées le septième mois. Et comme nous avons vu dans Lévitique, le septième mois, je pense que c'est au 15e jour, c'est cela qu'il a dit, il y a eu des fêtes, les fêtes du tabernacle, c'est ça? Le premier jour. Ça, c'est le verset. C'est ça, le 15e jour du 7e mois. Alors, nous voyons dans le verset premier du chapitre 3, le 7e mois, OK? Mais pour faire référence à Lévitique, on parle du 7e mois, 15e jour. Alors, il a fallu qu'il y ait des fêtes pendant 7 jours. Et puis, c'est pas juste des fêtes comme ça. Pendant ces fêtes-là, il y avait des choses à faire. Et puis, il y avait la fête des tabernacles que Dieu avait demandé. Et si vous lisez le reste du texte, comment le peuple devrait offrir des sacrifices, aussi s'amuser, manger et boire aussi. C'était pas juste des fêtes plates, là. C'était vraiment des fêtes où le peuple pouvait se réjouir. Mais aussi, le peuple devrait offrir des sacrifices aussi pour se sanctifier pendant ces fêtes-là. Et je trouve ça intéressant que tout ça tombe le septième mois. Et Dieu avait demandé à ce peuple-là de fêter la fête du tabernacle au septième mois. Puis, arrivé dans Esdras, ils reviennent en exil. Le septième mois, encore, ils commencent. Et puis, pour moi, ça me dit aussi que le peuple était fidèle aux Écritures. Et on va voir que ils ont eu sûrement des obstacles à surmonter parce qu'ils avaient peur. N'oubliez pas, parce que c'est un peuple qui revient de l'exil. Ils n'ont pas d'armée. Ils sont faibles, n'est-ce pas? Ils reviennent de l'exil. Et n'oubliez pas qu'il y a plein de peuples aux environs, là. Les peuples qui les aimaient vraiment pas et qui étaient prêts à les attaquer. Nous allons voir dans le reste du chapitre comment il va y avoir des menaces pour que les travaux s'arrêtent, là. Fait que, on peut voir ce peuple-là qui est quand même dans la joie, va fêter la fête du tabernacle et que Dieu leur avait demandé. Et nous croyons que c'est en prévision de cette fête-là, qui est une fête au cœur des activités culturelles des Israélites, l'autel. Fait que pour fêter cette fête du tabernacle, où il va y avoir des sacrifices, il va y avoir du manger, etc., ça leur prend l'autel. Fait qu'on comprend que le peuple veut commencer tous les travaux en passant par l'autel, parce que la fête s'en venait, c'est le septième mois. Ils savaient ça, la fête s'en venait, et c'est le septième mois, et ils se sont mis d'accord pour travailler, pour bâtir cet autel-là, pour offrir des sacrifices, pour offrir d'action de grâce à l'Éternel, aussi pour célébrer cette fête du tabernacle qui s'en venait, et ce serait la joie pour tout le peuple. Mais c'est un rappel aussi qu'il y a leur Dieu, et ils méritent l'adoration, aussi veut se conformer à ce que Dieu leur avait demandé. Dans les versets plus bas, plus loin, nous allons voir comment c'était dans le verset 6 déjà, il parle qu'ils ont commencé. Ils ont commencé les holocaustes dans le verset 6 de Esdras 3. Ils ont commencé les holocaustes début au septième mois, déjà au septième mois. Alors ça nous donne l'impression que les travaux ont été terminés. C'est ce qu'on croit comprendre dans le verset 6. Parce que si Esdras et tout le peuple se sont assemblés pour exécuter les travaux de réaction de l'autel au septième mois, au premier jour du septième mois, et que déjà dans le verset 6, il nous a dit que ils ont commencé à offrir des holocaustes au septième mois, ça sous-entend, d'après moi, que les travaux de construction de l'autel ont été terminés, déjà, disons, dans le sixième mois. On est d'accord là-dessus, si on peut comprendre comme ça. Ça veut dire que c'est dans la même année qu'ils sont revenus, sixième mois dans l'année qu'ils sont revenus de l'exil, le peuple s'est mis au travail sous la vision que Dieu leur avait donné, en arrière de leur chef politique et le chef religieux, pour bâtir l'autel dans quelques mois, disons. Ils ont bâti l'autel dans quelques mois. C'est vraiment intéressant de voir comment, ensemble, ils ont pu arriver à la construction dans un si court de temps. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Dans le verset 7, il nous parle de la répartition de tous ces talents-là qu'ils avaient, les tailleurs de pierre, les charpentiers, etc. Il nous donne la liste de toutes les personnes, de tous les talents qui ont été mis à contribution pendant la construction de l'autel. Dieu a donné nous avons vu, c'est Dieu qui pourvoit anyways, hein, qui est lui qui donne toutes ces capacités-là. Et nous voyons le peuple qui se donne entièrement à ce projet, et qui repartissent, qui utilisent les dons que Dieu leur a confiés pour la construction de l'autel. Est-ce que c'est la même chose dans l'Église? Oui, la Bible nous dit ça. La Bible nous dit ça. Il a donné des diversités de dons, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Et dans 1 Corinthiens 12, versets 4 et 7, hein, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'unité. Quand le peuple de Dieu est uni, on peut faire de grandes choses. Et c'est exactement ce qu'on voit dans Esdras 3, que tout le peuple s'est réuni comme un seul homme en arrière de la vision. Ils ont mis en commun les talents que Dieu les a donnés. Et voilà le grand projet qu'ils ont accompli pour Dieu. Et dans un court temps, ils ont adoré, ils ont monté l'autel et commencé par l'adoration de leur Dieu. Le peuple est tout en joie, le peuple est tout uni. Ils construisent l'autel. Mais le projet ne s'arrête pas là, il faut aller plus loin. Et puis c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans les chapitres qui vont, dans les versets qui vont suivre, c'est la construction du temple. Parce que comme Dodo l'avait mentionné, vous l'avez sûrement lu aussi dans le verset 6, que les fondements du temple n'étaient pas là. Et on a regardé bien, je pense que dans les messages qu'on a eu avec Ronald, avec Richard, On avait une idée générale du tabernacle, du temple, comment c'est monté, puis les parvis, les murs, et puis le sanctuaire en arrière, on a vu l'autel qui est juste en avant, etc. On comprend exactement ça. Et puis, en regardant cela, on voit vraiment le peuple s'enligne vers la construction, mais en commençant par l'autel, et maintenant c'est le temple qui va être construit. Alors, ça, et c'est dans les versets 8 à 13 qu'on peut lire cela. C'est une bonne lecture. Nous vous avons encouragé à lire le texte avant le cours. On n'a sûrement pas le temps de lire tout ce texte-là, mais c'est très intéressant de voir. Et vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus pendant que nous lisons et regardons cela. Alors, il y a un projet de reconstruction du temple. C'était pas un projet facile. Pas en tout. C'est pas un projet facile du tout. Et ils font face à des défis. Mais ils veulent quand même construire le temple que Dieu leur avait demandé. Et tout le long de ces versets-là, on voit des chants de louange. Les gens sont excités. Il y a une répartition des tâches, comme on l'avait dit. Il y a les sacrificateurs, Esdras, Zorobabel, une chose qu'il fallait regarder vraiment, qui va retenir l'attention, que toute cette démarche est toujours initiée par les chefs Zorobabel et Josué. Ils sont toujours à la tête de ce mouvement de reconstruction de l'autel, de la reconstruction du temple. Les chefs avaient cette responsabilité d'entraîner le peuple vers l'accomplissement de ce projet-là. Alors, ils se sont réunis. Ils ont redistribué les tâches. Il y en a qui vont faire la garde. Il y en a qui vont chanter pour encourager parce qu'il y a des gens qui travaillent. Et sûrement dans nos milieux, je ne sais pas si en Amérique du Nord, c'est comme ça. Mais chez nous, dans les pays de l'Afrique et en Haïti, quand il y a des travaux dans les champs, il y a des gens qui sont juste là pour applaudir, pour jouer de la musique. Jouer de la musique et encourager les gens qui travaillent. Et puis, je trouve ça, c'est une belle image qui me ramène en arrière de quelques années. Et on voit la joie du peuple, là. On voit les cris et des chants, les jeunes sûrement, qui chantent, qui jouent la cymbale. Le texte nous dit très clairement, là. Il y a une activité de joie, une cérémonie vraiment, dans l'accomplissement de ces travaux-là. Le peuple est excité. Pourquoi pensez-vous que le peuple est si excité? Donne-moi quelques exemples, d'après vous, qui pourraient pousser leur excitation à ce point-là. Oui, c'est l'œuvre éternelle. Oui. Libération, oui. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Encourage, c'est bien. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Une chose qui est importante aussi qu'on avait vu, c'est que il y a des personnes qui non seulement qui sont dans la joie de l'allégresse, mais il y en a qui pleurent aussi. Mais ce sont pas des pleurs de détresse là, c'est pas de détresse, c'est pas de tristesse là, c'est des pleurs de joie. Qu'est-ce que ça vous fait penser? À quoi ça vous fait penser un petit peu? La fidélité, oui. Les jeunes qui viennent d'arriver, qui n'ont pas connu l'ancien site, qui n'ont pas connu cela avant. OK? Ils sont revenus de l'exil. Juste le fait d'être libéré, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Hein? Libéré, c'est quelque chose. On est libre, enfin. Et puis, on est arrivé chez nous, on est en train de bâtir la maison de l'Éternel, qu'ils n'avaient pas le privilège auparavant, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas. Maintenant, ces jeunes-là, qui sont en train de bâtir la maison de l'Éternel, et à côté d'eux, sûrement que les parents leur en parlaient ce qui existait avant, hein? Puis là, de se voir arriver à l'accomplissement de ce projet, maintenant, ils sont en train de mettre pierre sur pierre pour la construction de ce temple-là. Les vieillards, sûrement, qui dans le passé, qui pourraient faire, qui étaient là peut-être avant la destruction, qui pourraient sûrement en penser à l'ancien temple qui a été détruit, maintenant, qui vont penser à tout cela. Et Dieu leur avait dit que je t'emmènerai pendant 70 ans, je te ramènerai. Pensez à tout seul, hein? Un vieux qui a vécu tout seul. C'est quelque chose de... Ça fait pleurer, n'est-ce pas? Ça fait pleurer. Mais ces pleurs-là, c'est à cause de la... Quand tu regardes la fidélité, la bonté de Dieu à travers toutes ces années, 70 ans, qu'il nous a protégés, mais son agenda est encore là. Il veut accomplir son agenda. Malgré tout, il est là. Waouh, c'est des choses... C'est extraordinaire. Et ça pourrait... En tout cas, pour moi, ça me donnerait des larmes de joie. Tu vois, vraiment, c'est accompli. Finalement, on est rendu là. C'est intéressant de voir. Il y en a aussi qui sûrement qui sont pas contents de cela. J'imagine dans toute la gang. Il y en a comme ça. Et puis plus tard, on va voir, ce n'est pas forcément des Israélites, des Juifs, de la tribu de Benjamin et de Juda qui sont revenus, mais d'autres, il va y avoir d'autres oppositions. Alors, quand on pense à la fidélité de Dieu, et on peut s'en réjouir, n'est-ce pas? Et cela, c'est vrai dans chacune de nos vies. La fidélité de Dieu dans nos vies. Le psalmiste dit, ta fidélité est une cuirasse pour moi. C'est une sécurité pour moi, sachant que tu es fidèle. Il va accomplir ses promesses, même quand ça va mal. Parce que nous savons qu'on sert un Dieu fidèle. Il va tenir promesse. Je peux avancer, malgré les obstacles qui peuvent se présenter sur mon chemin. Et dans ce moment-là, le peuple était tout en joie parce que Dieu a gardé ses promesses, Dieu a été fidèle envers eux. Dieu leur a permis de rentrer et de construire l'autel. Ils sont dans la fête, ils sont chez eux, ils sont en train de bâtir le temple de l'Éternel. C'est merveilleux, ils sont dans la joie. Ils sont capables de célébrer la bonté, la fidélité, la souveraineté de Dieu. Et c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. Chaque jour de nos vies, on peut célébrer notre Dieu. Il faut célébrer, il est fidèle. Il est bon que son nom soit loué. Maintenant que le projet a commencé, on va dire, le projet de bâtiment du temple a commencé, vous savez ce qui va arriver? Ça va s'arrêter. Comme dans tous nos projets, n'est-ce pas? C'est pas tous nos projets qui arrivent à l'exécution complète d'un coup. Et malheureusement, dans ce cas-là aussi, le peuple de Dieu a dû se heurter à des obstacles. Et vous le savez, en tant que chrétien, quand on prend position pour Dieu, quand on travaille pour Dieu, quand on veut accomplir la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir des obstacles. Jésus-Christ l'a bien dit. Si vous prenez position pour moi, vous serez persécutés. Et c'est à travers toute la Bible, on voit que c'est vrai. Dans nos vies, on voit que c'est vrai. Et le peuple n'a pas été exempté de cela. Chapitre 4, nous avons vu dans le chapitre 3 le bâtiment de l'autel, la reconstruction de l'autel à la même place, sur ses anciens fondements, d'alors, dans le passé. Le temple, la reconstruction du temple a commencé, les talents sont mis à contribution, ça va bien jusqu'à date, on encourage les travailleurs. Mais à un moment donné, ce chant-là écœure quelqu'un. Ce chant de louange-là, ça ne fait pas le bonheur de quelques-uns autour. Les peuples, pas loin, le texte les appelle les ennemis, et ils n'étaient pas contents. C'était des ennemis des Juifs, c'est les peuples qui n'étaient pas de la tribu de Juda et de Benjamin, qui étaient installés de force là, et ça n'a pas fait leur affaire. Ça n'a pas fait leur affaire. Puis, ils n'ont pas voulu que les murs, la construction du temple progresse. Alors, ils ont créé de l'opposition. Oui, allez-y mon frère. C'est une ruse, on va le dire. C'est une ruse. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Parce que le texte même nous le dit et nous allons le voir. Parce que quand Zorobabel a dit non, pas question là, laissez-nous tranquilles, on veut nous-mêmes, on n'a pas besoin de votre aide. C'est ce qu'il va leur dire, c'est ça? Zorobabel va leur dire, non, laisse faire, on n'a pas besoin de votre aide, on va nous-mêmes construire la maison de notre Dieu. Parce que eux, quand ils viennent, ils disent, peux-tu lire le texte pour dire qu'est-ce que ils offrent comme aide? Ok, alors c'est un peuple qui a été forcé d'être là, ok? Mais ils témoignent qu'ils adorent le même Dieu que. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est pas vrai. Comprenez? Il y a une ambiguïté là, et vous allez voir. Là. Parce que si vous remontez dans un texte, ce peuple-là, on va le faire, on va vous raconter ça vite, parce qu'on n'aura pas le temps de lire, mais vous pouvez lire tout le texte dans Deux Rois. Et ce sont des ennemis, ce sont des peuples qui ont été forcés, amenés en Samarie par le roi d'Assyrie. Ok? Alors, ce peuple-là est arrivé là, et parce qu'ils sont là, ils ont commencé à adorer leur Dieu, parce que c'était pas un peuple qui connaissait pas Dieu. C'était un peuple païen. Fait qu'ils avaient leur Dieu, les idoles, etc. Fait qu'ils commençaient à arriver à Samarie, ils commençaient par adorer leur Dieu. Dieu était contre ça. L'Éternel était contre ça. Fait que Dieu a envoyé des lions pour comme ravager, pour détruire, pour les manger, disons, okay, pour les déchirer. Ça a pas fait affaire du, ça a pas fait l'affaire du roi d'Assyrie. Ils se sont plaints contre ça. Puis le roi d'Assyrie, qu'est-ce qu'il a fait? Puisqu'il y avait des prêtres, vous vous rappelez, pendant l'exportation à Babylone, qu'est-ce que Nebuchadnezzar avait fait? Il avait sorti ceux-là, les hommes de métier, les sacrificateurs, les gens qui avaient un statut social, les gens qui étaient éduqués. Nebuchadnezzar a amené ces gens-là en exil, n'est-ce pas? Fait que c'est le reste qui est resté, là, les gens qui, plus ou moins l'argent. Et les prêtres ne sont pas là. Fait que ce que, à la demande de ce peuple-là, après avoir été déchiré, attaqué par les lions, ils comprennent que c'est le Dieu d'Israël qui était fâché contre eux. Fait que le roi d'Assyrie a été chercher un sacrificateur en exil, il l'a ramené en Samarie, et ce sacrificateur, il lui dit de aller enseigner à ce peuple-là, ce nouveau peuple-là, comment adorer ton Dieu. Ok? Fait que quand il a commencé à leur, il pensait qu'ils allaient leur montrer comment adorer leur Dieu, les idoles, mais le sacrificateur, il leur a montré comment adorer son Dieu, le vrai Dieu. Alors, ce peuple-là, il fait face à la connaissance des faux dieux et à la connaissance du vrai Dieu. Ils ont été exposés au vrai Dieu par l'enseignement du sacrificateur qui est revenu d'exil, n'est-ce pas? Fait que ce peuple est installé en Samarie. Ils ont la connaissance des faux dieux et la connaissance du vrai Dieu. Maintenant, je vous demande de lire le texte qui est indiqué ici, 2 Rois 17:33. Ainsi, ils craignaient l'Éternel, en parlant de ces peuples ennemis-là qui sont installés en Samarie. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps les dieux d'après leur coutume des nations d'où ils avaient été apportés. En même temps. Fait que c'était des peuples qui adoraient le bon Dieu, le vrai Dieu et les faux dieux. Mais là, tu comprends pourquoi que Zorobabel ne veut rien savoir de ces gens-là. J'ai pas besoin de ton aide. Est-ce qu'il y a une leçon pour nous là, en tant que chrétiens? Mais oui, ils ont une question là. C'est fondamental dans notre vie en tant que chrétien de ne pas accepter la collaboration avec des non-chrétiens là, dans le projet de Dieu. Mais non, ça ne marche pas. Ils adoraient vraiment là, le bon Dieu. Ton Dieu, je l'adore. C'est une ruse, mais ils sont plus ou moins sincères dans ce qu'ils disent. Là. On adore Dieu, mais on adore les faux dieux aussi. Mais Dieu ne veut pas ça, lui. Dieu veut toute notre adoration. Et on comprend que Zorobabel et Josué ont dit, non, non merci, on n'a pas besoin de votre aide. Ça répond à ta question? Sûrement tu avais la réponse, anyways. Alors, c'est ça, c'est pour ça qu'ils ont refusé. Alors, peut-être certains d'entre vous ont posé la même question, ils sont juifs, et puis ils ont été approchés par deux personnes pour les aider dans un travail, pourquoi refuser de l'aide? Mais dans ce contexte-là, Zorobabel et Josué ont dit, non merci, je n'ai pas besoin de votre aide. Et je réitère que ça devrait être notre attitude en tant que chrétien. Oui, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Ne parle plus fort. Tu te mêles avec tout le monde. Oh, si on Jésus-Christ, c'est pas grave. Il y a donc, puis c'est un enseignement pour nous aujourd'hui de ne pas faire alliance, de ne pas collaborer avec les gens qui servent Dieu et maman ou bien d'autres dieux. C'est une bonne leçon que notre frère Zorobabel nous a enseigné ici là comment. Rejeter ces demandes-là. Alors, c'est une ruse, on va dire, dans le verset qu'on a lu, le premier verset, c'est la ruse parce que c'était pas vrai, vraiment, là. Mais ça va se confirmer dans le verset 4 et 5. Ils vont commencer par l'intimidation, le découragement. Ils vont payer dans le verset 4 et 5. Ils offrent leurs aides. Puisque l'offre a été refusée, ils n'ont pas besoin de votre aide. Là, ils vont revenir avec une autre tactique. Là, ils vont dire, OK, on va l'intimider d'abord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si vous voyez dans votre texte, il est dit, ils ont payé des gens pour donner de mauvais conseils. C'est-tu nouveau, ça? Mais non, c'est pas nouveau. Ils ont payé des gens pour donner de mauvais conseils, pour les décourager dans leur projet. Je sais pas s'ils avaient besoin de conseils d'un ingénieur, en civil ou en construction, whatever. Puis qu'il va donner de l'argent à un autre gars, à un, peut-être à quelqu'un qui a la compétence, mais qui va donner de mauvais conseils pour que ça puisse tomber, là. Si tu bâtis un temple, les murs commencent à tomber, mais ton projet vient de canner, là. Okay. En tout cas, les détails, on ne sait pas, mais le texte nous dit que ces gens-là ont été soudoyés. Ils ont été payés pour donner des conseils. Ce n'est pas des bons conseils. Ça, c'est, plus tard, le texte nous dit de les intimider et de les faire des menaces, c'est sûr. Et puis de les décourager. Non, ton affaire n'ira pas loin. Et c'est la même chose qui s'est passée plus tard, nous allons voir avec Néhémie. Néhémie a commencé à bâtir le mur. Je ne vais pas empiéter sur l'étude, mais quand même. Quand Néhémie commence à bâtir le mur, il commence à avoir des obstacles. Les gens vont dire, ben là, hey, ton mur que tu montes, là, même un renard va passer, ça va tomber. Un renard, ça ne tiendra pas debout parce que même un renard peut l'abattre. C'est spécial. Ça, on va le voir plus tard avec Néhémie. Mais déjà là, on voit les obstacles qui sont posés devant le peuple face à leur obéissance à la volonté de Dieu. Ils vont utiliser l'intimidation, ils vont utiliser des conseils, des faux conseillers qui vont les décourager. Et ces gens-là, ils ne vont pas se tanner. Là. La Bible, le texte, si on regarde bien, là, ils vont dire que ça va retourner là encore et encore avec fréquence jusqu'au règne de Darius. Je ne sais pas, la semaine passée, Ronald nous a présenté un petit schéma là, avec tous les rois, les époques, etc. Là. Et je pense quasiment une quinzaine d'années à peu près, là, que ces gens-là, là, ils reviennent encore et encore pour les décourager. Ils ont continué jusqu'à l'arrivée de Darius. Ils commençaient avec Cyrus pour arriver juste au règne de Darius. Là. Wow! Ils sont persistants. Ils veulent décourager le peuple dans la construction du temple. Et ce qu'ils vont, c'est comme si ce n'était pas assez, ils sont en train de décourager. La prochaine chose qu'ils vont faire, ils vont faire des accusations mensongères. Hey, ils vont aller écrire au roi. Ils vont écrire au roi. Ils disent, monsieur le roi, là, hey, nous mangeons de ton pain, là. Et ce peuple-là, si vous regardez dans vos records, là, je paraphrase l'histoire, là, OK? Si vous regardez dans vos records, vous allez voir que ce peuple-là, c'est un peuple qui a été toujours rebelle. C'est pour ça qu'on les a amenés là-bas. Alors, si vous permettez à ce peuple-là de rebâtir son temple, ils vont pas payer l'impôt. Et puis ça va affecter tes trésors. Hein? C'est bon ça, comme argument. Pour un roi. Hein? Hein? Tu payes pas l'impôt. C'est important l'impôt. C'est pas nouveau ça, l'impôt. Et puis il dit, qu'est-ce que ça va faire? Ça va affecter les trésors royaux. Quel argument, n'est-ce pas? Pour décourager. Fait que le roi, qu'est-ce? Il va mordre à l'hameçon. C'est garanti, tu parles d'impôt, de ne pas payer l'impôt, là. C'est un humain. Hein? Les gens sont grands. Ça fait que il va mordre à l'hameçon. Et ces mensonges-là, ces accusations qu'ils vont faire contre le peuple, ils vont forcer le roi à émettre un édit. Ils voient, le roi va émettre un édit. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont arrêter les travaux. Ils vont faire de la violence plus tard. La violence même. Et la violence, dans les versets, et la force, c'est les thèmes qui sont... qu'on peut repérer dans le texte, le verset 17 à 23. La violence. Quelqu'un peut lire pour moi, le verset 17 à 23, Exodus chapitre 4. C'est bon de l'entendre. En fait, on a pu tout lire, mais lisons cette partie-là.
Le roi envoya cette réponse. Arioum, gouverneur à Shimshai, secrétaire et au reste de leur collègue, demeurant à Samarie et aux autres lieux de l'autre côté du fleuve, salut, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y a eu à Jérusalem des rois puissants qui dominaient sur tout le pays de l'autre côté du fleuve et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne soit pas rebâtie avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Rehum, Shimshai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent interrompre leurs travaux par violence et force.
Alors fut interrompu l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse.
Voilà, c'est clair, c'est clair. Ouais. Est-ce que dans le Nouveau Testament, on connaît quelqu'un qui a fait ça? À peu près la même chose, qui voulait aller chercher des recommandations pour attaquer les chrétiens? Paul? Saul, oui, Saul. Saul a fait la même chose. Oui, les chrétiens, là, ben, Jésus-Christ nous l'a dit. Puis dans toute l'histoire, on voit qu'ils sont attaqués. Et puis le plan de Dieu, le plan de salut de l'humanité, Satan est toujours là, hein, toujours là, pour contrecarrer ce plan-là. Mais nous savons que le dernier mot, c'est Dieu qui va l'avoir, le dernier mot, n'est-ce pas? C'est notre espérance. Et c'est vrai, dans toute l'histoire, Et dans nos vies, on le sait, dans nos vies, que c'est le plan de Dieu qui s'accomplit, malgré les attaques, les embûches, les obstacles. On voit l'exemple merveilleux de l'apôtre Paul, comment Dieu va transformer cet homme-là. Petite question, juste pour discussion et réflexion. On dit qu'il y avait de la violence. Le texte nous le dit. Les gars, là, la minute qu'ils ont reçu l'autorisation du roi à Tarxerxès, là, ils ont pris une copie de cela, là. Ils sont passés à l'action, commencé à faire de la force, de la violence. Ce petit peuple faible, sans armée, qui est attaqué de tous bords, maintenant la violence directe, abandonne la construction. Ça, c'est pas légitime, ça? Oui, ils n'ont pas de force. Puis c'est le roi qui leur dit mais d'arrêter. Et puis, c'est la force, la violence contre eux. Est-ce que la suspension des travaux peut être légitimée parce qu'il y avait la violence? Question de réflexion et discussion. OK. Quelqu'un a dit qu'ils obéissaient au roi. OK. Oui, continuez votre réflexion. Mais les travaux vont arrêter pareil, on s'entend. Quelqu'un dit, dorénavant, renoncez à votre Dieu. Sous violence. Arrêtez ce moisson de prêcher dans les rues, aller à l'évangile, là. Oublie ça, là. Et puis, sous violence, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben c'est parce que c'est Trudeau qui le dit, ben j'obéis. Le texte du Nouveau Testament, que notre sœur a lu, là, c'est le même contexte, sinon pire. Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont choisi? Est-ce qu'il faut obéir à Dieu ou aux hommes? On est là pour être enseigné. Cette parole-là est là pour nous enseigner. Et puis notre inclination naturelle, on le sait. Mais cette parole-là est là juste pour cela, pour nous enseigner encore. Face à nos défis quotidiens, quelle est la direction de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est de la volonté de Dieu? Et je pense que la réponse est là. Et nous avons compris la réponse. C'est peut-être difficile à digérer comme réponse, mais la réponse est là. Vas-y, ma chère. Réflexion. Si le peuple, et c'est notre exercice aussi, quand on a commencé le cours, on a parlé de revenir au mandat, revenir à la mission. C'est un projet de Dieu, là. C'est un projet de Dieu. Dieu demande à ce peuple de bâtir un temple pour lui. Il a donné l'impossible. Le cœur du roi a été fléchi. D'abord, le cœur du roi de l'Empire a été fléchi. Non, c'est... Des fois, là, il faut juste revenir à la source, revenir au mandat, ce que Dieu nous demande de faire. On sait qu'il va pouvoir. Il a pourvu. Mais face à cet obstacle-là, le peuple peut-être avait d'autres préoccupations. Il avait peut-être d'autres préoccupations. Et ça, je ne le dis pas légèrement. Je vous invite à tourner dans AG1. AG, il y en a qui disent AG, moi j'ai dit AG, je répète AG, c'est carré, on comprend AG. AG1. Ce serait important, ben, quelques jours, on a le temps, on va juste lire le chapitre 1. C'est comme ça, vous allez mieux comprendre. Agé, c'est difficile à trouver, mais je vous donne du temps pour trouver ce petit prophète-là. Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi.
La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Séchatiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josaphat, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées? Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous empressez chacun pour sa maison, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur et l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils virent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius.
Alors, en écoutant ce texte-là, on comprend un peu mieux la situation. Là. Dieu les exhorte. Ça, c'est Dieu qui prend la décision d'exhorter ce peuple-là à travers son prophète Agé. Et il ne leur dit pas, c'était correct d'abandonner, là. C'est pas ça qu'il leur dit, là. Il est en train de tirer les oreilles. Il s'adresse d'abord, si vous l'avez remarqué, au chef. Vous avez remarqué ça? Il s'adresse au chef. Et intéressant de voir à la fin du chapitre, ce sont quand les chefs se sont réveillés, ces mêmes chefs-là, dans moins de 21 jours, dans 21 jours, il y a eu un réveil. Dans 21 jours. Fait que l'inertie, l'engouement spirituel, là, ça nous guette tous. Ça nous guette tous. Même les dirigeants, je ne sais pas si vous avez remarqué. Là. Fait qu'avec le temps, ce que le texte nous dit, là, finalement, le peuple, construire la maison de l'Éternel n'était pas leur priorité. C'est leur maison à eux. On peut les comprendre, là. Entre nous, on peut les comprendre. Ils reviennent de l'exil, ils n'ont rien. Le matériel l'emporte, là. On le sait. C'est un combat, c'est un défi pour tout humain, tout chrétien en plus. Mais l'exhortation dans ce texte-là, quand on ne voyait pas Agé qui était le prophète que Dieu a utilisé pendant ce temps-là, nous avons vu dans la petite présentation de Ronald la semaine passée qu'il a prêché avec Zacharie dans cette période-là. Agé a adressé cette parole-là, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Vous avez remarqué, l'initiation vient de Dieu tout le temps. Tout le temps! C'est Dieu qui prend les premiers, qui fait les premiers pas vers le salut. Dans le jardin d'Aden, c'est lui. Partout, partout, partout dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de l'humanité, Dieu fait toujours le premier pas pour notre salut. Il accomplit le salut. Le peuple est découragé. Le peuple est découragé. J'ai l'impression que Dieu comprend le découragement. J'ai l'impression que c'est vrai et je pense à Pierre. Quand il dit à Pierre, ton cœur est à la bonne place, Pierre. Mais ton esprit est bien disposé, mais la chair est faible, Pierre. Pierre ne pouvait pas prier avec le Seigneur. Là. Le Seigneur dit, mais j'ai prié pour toi. Là. Non, pas de problème, Pierre. Je sais que ton cœur est à la bonne place, mais la chair est faible. Puis je pense que c'est ce qu'il est en train de dire à ce peuple-là, à ces dirigeants-là du peuple-là qui ont abandonné, et qui ont arrêté pendant 15 ans la construction du temple. Et ce qui me fait dire ça, là, après toutes les reproches qu'on a vues, là, c'est que, il est dit, dans le verset 13 là, Agée, le prophète, envoyé par l'Éternel, l'initiateur, c'est Dieu qui prend l'initiation d'envoyer. Bien que le projet, c'était son projet, qu'il a tout dévoilé, ils ont commencé, ils ont arrêté, mais il envoie Agée pour, qu'est-ce qu'il dit? D'après le l'Éternel, c'est comme si l'Éternel leur dit là, allez, recommencez les travaux, je suis avec vous. Dans vos faiblesses là, dans vos faiblesses, dans votre inertie spirituelle, engourdissement, ça ne vous tente pas de construire mon temple. Je suis avec toi. Il tire l'oreille. Les chefs ont compris, se sont réveillés. Et le texte nous dit dans 21 jours, je pense, une affaire comme ça là. Allez-y.
Vous pensez qu'il y a eu, alors tu dis 15 ans, mm-hmm. Darius était roi depuis 2 ans. Il y a eu un changement de roi. Oui. Et peut-être, on ne voit pas de.
Le texte ne nous le dit pas, mais si on peut faire confiance au prophète Agée, qui s'adresse directement au chef. Oui. Voilà ce qu'il leur dit là. Pour avoir pas fait ci là, vos champs n'ont rien produit. C'est qu'il y avait une réponse, Dieu, à leur engouement, il y avait une réponse naturelle. Dieu a répondu. Vous le dites, mais ils ont. Vous réfléchissez là.
Mais moi, et puis c'est. Beaucoup d'amour
dans... Mais c'est sûr, c'est sûr. Comme oui,
si,
oui.
Parce qu'il ne leur tombe pas dessus comme s'ils ont été coupables d'une affaire terrible et puis qu'il va les punir comme il fait des fois, comme le Seigneur fait des fois. Il lui dit, je vais
punir. Mais tout dépend de la définition terrible. Parce que pour moi, comme Dieu a dépêché son envoyé, là, dit, vous avez abandonné le travail, allez, reconstruire mon temple. Parce que votre préoccupation, c'était de bâtir vos maisons, vos affaires personnelles. C'est ce que je comprends dans
l'esprit. Pendant les 15 ans, oui.
On peut voir ça, mais comme si on retourne à la Bible, le Seigneur nous demande quelque chose et nous laisse tout seul. Et il leur dit, je suis avec vous. Il va changer les cœurs, il va changer les événements. Il va changer
là,
les événements.
Et là, il leur dit, recommencez.
Oui, mais je reviens au texte de Actes aussi. C'est un tout, il faut garder l'équilibre là-dedans. Vas-y mon frère. Avec cette perspective-là, le peuple peut aller de l'avant, sachant que je pense qu'il y a une projection vers la gloire aussi, là, right? L'éternité. Oui, mon frère. Vous serez persécutés à cause de moi. C'est ça qu'il nous dit. Vous serez persécutés. Mais au milieu de tout ça, je suis avec vous. Quelqu'un peut prier pour terminer, s'il vous plaît?